Tribu, Julien Magnolet.
C'est une technique qui a été mise au point dans les années 60 aux États-Unis, la communication non violente. Elle se veut une méthode d'écoute et de compréhension des autres. Mais comment fonctionne-t-elle? Qu'a-t-elle à nous apprendre dans cette période de conflit, d'éco-anxiété et d'invectives sur les réseaux sociaux? Eh bien, deux sociologues se sont penchés sur la communication non violente le temps d'une recherche financée par le Fonds National Suisse. Et j'ai le plaisir de recevoir l'une des deux ce matin dans Tribu. Bonjour Anne Perrière.
Bonjour.
Vous enseignez à la Haute École de Travail Social de Genève, la HESSO, tout comme votre collègue hein, Laurence Bachmann. Alors Anne Perrière, pourquoi cet intérêt de deux sociologues pour la communication non violente?
En fait, dans nos questionnements de recherche, on se pose la question, je pense que comme beaucoup de monde, en fait, sur le fait qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin de changement de société, et on s'intéresse à des pratiques qui peuvent permettre la transformation. Et donc, on s'est intéressé aux pratiques de la communication non violente pour voir, en fait, quel était le potentiel de transformation individuelle et sociale.
Est-ce qu'il y a une vision du monde, une approche qui est un peu la même entre la sociologie et la communication non violente?
En fait, c'était aussi un constat en s'intéressant à ce mode de communication, parce que pour les personnes qui connaissent un peu, la communication non violente est basée sur une technique qui s'appelle l'OSBD, observation, sentiment, besoin de monde. Et dans l'observation, en fait, on retrouve vraiment cette idée de regarder les faits tels qu'ils sont, d'avoir un regard sur les choses, en fait, sans interprétation, sans jugement.
Peut-être on va détailler quand même cette communication non violente, parce que les gens connaissent souvent le nom, le terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, comment ça se passe concrètement?
Peut-être avant le comment ça se passe, c'est vraiment hein, quand Marshall Rosenberg a proposé ce mode de communication, son objectif était le changement social. C'est aussi une des raisons pour laquelle ça nous a intéressés. Est-ce que ça permet le changement social? Et donc, pour permettre ce changement social, il est parti du principe en fait qu'il fallait changer notre manière de penser, de croire, de communiquer. Et l'idée en fait, c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans le corps. Donc c'est s'intéresser à nos émotions. Donc par exemple, si je suis au volant et puis que je me dis ah mais quel imbécile celui-là, c'est de me dire ah ouais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais en fait je me sens tendu, agacé, stressé. Puis en fait j'ai besoin de quoi? Ah ouais j'ai besoin de fluidité. En fait, c'est de déconstruire ces jugements qu'on a sur le monde pour aller voir en fait ce qui se passe à l'intérieur des personnes.
Donc de partir plutôt de soi plutôt que de l'autre, ça peut valoir lors de conflits interpersonnels au travail, pas dire tu m'énerves, mais c'est de comprendre pourquoi je suis énervé maintenant, c'est juste?
C'est ça, avec deux postulats forts en communication non violente qui sont que en fait, les êtres humains ont besoin de liens et envie de contribuer, donc avec une vision positive, une croyance positive en l'humain. Et puis avec aussi la croyance que tout comportement nourrit des besoins, qui peuvent être des besoins de subsistance, mais aussi des besoins de créativité, de liberté, d'amour. Donc il y a ces deux croyances, en fait, dans la communication non violente.
Et il y a aussi cette idée que la communication telle qu'on la connaît, la communication normale, elle est souvent imprégnée d'une culture de domination, c'est juste?
C'est ça, et en fait, imprégnée quelque part de formes de violence assez ordinaires, par exemple dans la comparaison. Par exemple, dans justement les catégories dans lesquelles on peut mettre les personnes qui sont des petites formes de violence, et la communication non violente en fait s'appelle comme ça pour aller déconstruire en fait ces formes de violence ordinaires.
On entend parfois, alors c'est peut-être en psychologie, mais peut-être c'est influencé par la communication non violente, que le tu de s'adresser à quelqu'un lors de conflits tout le temps, tu m'énerves, tu fais ça, tu ranges jamais tes affaires, et qu'il faudrait se retourner vers un je. Est-ce que là, c'est de la communication non violente de plutôt regarder mon ressenti, mes émotions, plutôt que l'énervement peut-être suscité par l'autre?
Donc en fait, les personnes qui pratiquent la communication non violente, justement, essayent de mettre en pratique cette introspection avant de parler aux autres.
Il y a aussi cette idée que parfois, on enlève à l'autre sa liberté d'action. Expliquez-nous. Lorsqu'on est dans une situation classique, on dit, bah, par exemple, nous devons faire ça, il faut faire ça, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans la communication entre guillemets ordinaire, et qu'essaye peut-être de changer la communication non violente. C'est juste.
Donc, en fait, dans la communication non violente, il y a une distinction entre exigence et demande. Et la distinction qui est faite, c'est une exigence. En fait, par exemple, si je vous demande quelque chose, je suis pas ouverte à ce que vous me disiez non. Et une demande, en fait, ouvre la possibilité du non, avec la croyance derrière que, en fait, quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Donc on va aller s'intéresser, en fait, ben prenez la communication justement entre un parent et sa fille, et puis est-ce que tu ranges ta chambre? Non. Ah, en fait, quand tu me dis non, tu dis oui à quoi? Et on va s'intéresser à ce moment-là au monde de l'autre.
Est-ce qu'il y a forcément un oui derrière un non? Enfin, attention, on n'est pas dans la question du consentement, on est dans la question du ranger la chambre. Est-ce que c'est forcément qu'il y a un oui? Alors c'est quoi? Oui à ma liberté, oui à jouer à la PlayStation, c'est ça par exemple?
Justement, dans la grille de lecture proposée par la communication non violente, et la croyance en fait que tout comportement satisfait des besoins, effectivement, chaque comportement va satisfaire quelque chose. Donc en fait, oui, ça peut être la liberté, l'autonomie... La temporalité, oui, je rangerai ma chambre, mais plus tard.
Et cette communication non violente, est-ce qu'elle a des domaines de prédilection dans lesquels elle fonctionne bien, ou est-ce que c'est une sorte de méthode qui s'applique à quantité de conflits?
Donc, nous, on ne s'est pas forcément intéressé dans la recherche à est-ce que ça fonctionne ou pas, mais plutôt qu'est-ce que ça transforme. Mais les personnes qui pratiquent la communication non violente autant dans les relations interpersonnelles, en famille, mais ça se pratique aussi dans des conflits, vraiment des conflits, des guerres en fait.
Vous dites, vous évoquez votre recherche, Anne Perrière. Concrètement, comment s'est passé? Vous êtes allé voir qui? Des gens qui pratiquent la communication non violente, qui l'enseignent? Expliquez-nous peut-être un peu la recherche.
Alors nous, on s'est intéressé justement parce que aux personnes vraiment qui pratiquent pour voir qu'est-ce que ça leur apportait. Et on a mené des entretiens avec 47 personnes qui pratiquent, dont 10 formateurs et formatrices en communication non violente, dans différents pays, que ce soit en Belgique, en France, au Burundi, évidemment en Suisse. Et justement quelques pays en Afrique. Et on a aussi fait 26 observations dans des stages où là, on a fait des observations participantes. Donc, on est allé nous aussi en tant que stagiaires, justement, expérimenter ces dispositifs et ces outils.
Il y a parfois des critiques qui viennent envers la communication non violente, notamment le fait de se dire, en gros, c'est s'aplatir, quoi. Écouter l'autre, s'aplatir, ne pas dire forcément ses besoins. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
On s'est intéressé aux résistances face à la communication non violente parce que très souvent, dans le courant de notre recherche, on a entendu des gens critiquer la communication non violente sans la connaître. Puis on s'est dit, ça, au niveau sociologique, c'est aussi quelque chose à analyser. Et ça nous a permis aussi de voir en fait que les critiques, elles venaient du fait que les émotions sont dévalorisées en société. Donc la communication non violente, elle s'intéresse aux émotions, dans le sens qu'on peut être manipulé par les émotions, qu'elles sont irrationnelles, qu'elles sont souvent construites comme féminines et qu'elles vont contre la rationalité. Et ces résistances, justement, elles sont aussi systémiques. Donc en fait, par rapport au postulat de base de prendre soin des besoins de chacun et chacune, les personnes qui pratiquent, au contraire de s'aplatir, en fait, vont exprimer plus d'assertivité, d'affirmation de soi, de poser en fait des limites intérieures dans le terrain qu'on a investigué.
Oui, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans cette idée de communication non violente. Alors c'est le lien qui est très fort, mais aussi la connaissance de soi-même. C'est-à-dire pour comprendre l'autre, il faut d'abord que je me comprenne moi-même. C'est un petit peu comme une forme de psychothérapie où si on essaie de comprendre ses propres besoins pour pouvoir mieux agir avec les autres.
En fait, dans la construction de l'humain actuel, il y a cette idée que dès le moment où on touche aux émotions, donc au corps, parce que les émotions, c'est des ressentis physiques, on est dans la psychothérapie individuelle. Alors qu'on pourrait très bien prendre une autre perspective, en fait, sur l'humain. Et là, c'est vraiment ce débat aussi entre... En fait, au début de l'avènement du capitalisme, entre Descartes et Spinoza. Descartes, il introduit la binarité, la pensée binaire, la division entre corps et esprit, entre rationalité et émotion, entre différentes sortes de savoirs. Alors que Spinoza, il avait une vision plus holistique, moniste de l'humain. Ça veut dire qu'il le prenait dans sa globalité. Et une des notions importantes de Spinoza, c'est la joie. Non comme un sentiment, mais comme la capacité à être plus connecté, plus relié, plus capable. Et dans notre terrain, ce qu'on peut voir, c'est que par ce genre de pratiques, qui peuvent être autres que la communication non violente, les personnes, elles acquièrent cette possibilité d'être plus connectées, plus reliées.
Et aussi, là, vous parlez de polarisation, de binarité, c'est le fait de ces ou-ou. Et ben, des fois, la communication non violente dit, ça peut être on peut être à la fois en colère et peut-être connaître la joie aussi. C'est pas forcément un monde en noir et blanc. Il peut être gris ou il peut être un peu de noir, un peu de blanc. C'est juste.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça transforme? On voit que ce que ça transforme, c'est ces postures polarisantes, en fait, qui deviennent des postures de comme vous dites, ah ben moi je pense ça et toi tu penses ça et c'est ok. On a les deux raisons en fait de sortir de cette argumentation entre j'ai raison, tu as tort et de vouloir juste prouver à l'autre qu'on a raison.
Donc typique, c'est quelque chose qui peut être utilisé en médiation, j'imagine.
En médiation, oui, tout à fait. D'aller dans le monde de l'autre, de s'intéresser à sa vision des choses en partant du principe que sa vision, elle est légitime.
Nous parlons de la communication non violente ce matin. Mon invité est la sociologue Anne Perrière. On va se pencher justement sur certaines critiques qui viennent aussi à l'intérieur des sciences sociales, juste après Maxime Le Forestier.
Avec ce que j'ai fait pour toi, disait le père, je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant, j'en demandais pas tant, je suis là pour tourner autour de cette terre, tant que je suis vivant, vivant qui t'a donné la vie, disait le père, si c'est pour la passer ici, disait l'enfant, tu as perdu ton temps, si les fumées des rues fermées te sont légères. Moi j'ai besoin du vent, et si tu venais à mourir, disait le père, on est tous là pour en finir, disait l'enfant. Mais peu importe quand, je ne suis né que pour aller dessous la terre et l'oublier avant. Nous on vivait pour quelque chose, disait le père, vous êtes mort pour pas grand chose, disait l'enfant. Je n'en ai pas le temps, si pour garder les mains liées il faut la guerre, moi je m'en vais avant, ce monde je l'ai fait pour toi, disait le père, je sais tu me l'as dit déjà, disait l'enfant, j'en demandais pas tant, il est foutu et je n'ai plus qu'à le refaire, un peu plus souriant. Pour tes petits enfants.
Une chanson assez méconnue de Maxime Le Forestier, elle s'appelle Dialogue. On vous retrouve Anne Perrière, nous parlons de la communication non violente. Alors là, c'était cette chanson un exemple peut-être d'incompréhension entre un père et son fils. Est-ce que cette communication non violente, c'est une méthode qu'on peut utiliser en famille, par exemple, parce qu'il y a des tensions, il peut y en avoir pas mal en famille, ça fonctionne?
Oui, bien sûr, dans notre terrain, on est allé aussi dans des stages familles, justement pour les familles, pour des familles qui cherchent à vivre davantage d'harmonie. Je veux dire, en tant que sociologue, un des rapports de pouvoir que la communication non violente peut déconstruire, c'est ce rapport parent-enfant, le rapport d'adultisme, le rapport social d'âge, qui permet justement d'aller écouter en fait le monde des enfants, pour pouvoir reconstruire après des solutions qui prennent soin des besoins de chacun et chacune.
Il y a eu pas mal de critiques ces dernières années sur l'éducation positive, il y a des gens qui se positionnent contre ça. On voit que la communication non violente, ça date des années 60, c'est peut-être pas un hasard, il y a eu toute cette poussée aussi de prendre en compte beaucoup plus les avis de toutes les personnes, y compris les enfants. Est-ce que ce message-là, il passe encore aujourd'hui? Ou bien ce message de dire, on peut écouter davantage les enfants, enfin tout le monde, pas que les enfants, c'est plus compliqué à faire passer aujourd'hui?
Par rapport à l'éducation positive, en fait, par exemple, rapport à ces critiques, c'est clair que notre terrain de recherche, à nouveau, s'est intéressé plutôt aux personnes qui pratiquent et donc qui voient les apports pour eux, pour elles, qui s'investissent, qui mettent de l'argent, du fait de choisir un mode d'éducation qui prend soin des besoins de chacun et chacune. Et dans les entretiens, on voit que parfois, c'est vraiment un pari que les personnes font, de tenir la confiance, même si elles auraient tendance à vouloir utiliser le chantage, la manipulation, en se disant que ce serait bien plus simple à court terme. Mais la majorité des personnes concernées, elles ont l'intention en fait de vraiment mettre en œuvre ce paradigme-là, de prendre soin des besoins de chacun et chacune, avec les difficultés que ça engendre.
Mais ça veut dire concrètement, si on est une mère, un père, et qu'on dit « Ok, je vais essayer d'utiliser cette boîte à outils de communication non violente », par quoi est-ce qu'il faut que je commence, par exemple? Est-ce que vous auriez un conseil?
Alors, les personnes commencent par la lecture de livres, et puis d'aller dans des stages pour justement déjà comprendre ce que ça veut dire. Et je pense vraiment que ce qui change, c'est ce qu'on aimerait des fois montrer dans la recherche par rapport à ces possibilités de faire société différemment, c'est comment on peut passer avec ce type d'outil d'une société basée sur la domination et la peur de la domination à une société basée sur la coopération. Parce que souvent, en tant que parents, les personnes disent « mais en fait, C'est pas un enfant qui va me dicter ce que je vais faire, où il y a la peur de se faire dépasser, où il y a la peur de perdre son pouvoir, où il y a la peur de tout laisser faire. Et en fait, avec les personnes qu'on a interrogées, avec cette conscience de leur jugement, waouh, là je vais me faire dominer, là je vais me faire dépasser, de quoi je vais avoir l'air par rapport à mes parents, à mes amis, c'est d'aller voir, ah waouh, ben je me sens dépassée, j'ai besoin de confiance, ou j'ai besoin de limites. Et ça permet après d'élaborer des stratégies. Ça veut pas dire pour les personnes concernées de plus avoir de limites intérieures, mais d'agir depuis ces limites-là, plutôt que des croyances héritées en fait.
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de critiques qui entourent cette pratique de communication non violente, mais comme d'autres pratiques. Hein. Si on regarde du côté des sciences sociales notamment, vous l'avez dit, mais cette question d'intériorité, des émotions, c'est quelque chose sur lequel on est assez vite critique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur ce terrain-là. Pourquoi cette réticence ?
Une hypothèse aussi ici de la recherche, c'est la peur en fait de l'individualisation, en fait du fait que la communication non violente serait individualiste et ferait reposer sur l'individu en fait toute la responsabilité du changement de société. Et ça provient de ce système de croyances de nouveau qui divise le je et le nous et qui a de la peine avec les croyances qu'on a accumulées depuis l'enfance de penser que le je et le nous peuvent exister ensemble et qui sont pas forcément en opposition.
Mais c'est vrai qu'en sociologie, il y a beaucoup de sociologues qui travaillent avec comme point de départ la question de la domination. Il y a ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Or oui. Là, c'est quelque chose qui dit non, mais il faut. Est-ce qu'elle dit la communication non violente, ça n'existe pas ou ça ne devrait pas exister ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que là, du coup, c'est comme si vous vous priviez d'une clé de lecture qui est quasiment la clé de lecture de la plupart des sociologues aujourd'hui.
Alors, dans notre recherche, on a vu différentes perspectives là-dessus et sur les rapports de domination, mais certaines personnes, notamment aux États-Unis, essayent de ramener la question de la domination à l'intérieur de la communication non violente. Et ça peut être une limite hein, au niveau sociologique de la communication non violente, c'est sans conscience des rapports de domination et du fait par rapport à cette OSBD qui est observation, besoin, sentiment, demande, que les personnes privilégiées ont peu de demandes à faire puisque le système s'adapte à elles et à eux. Et c'est les personnes qui seront plus en situation d'oppression qui vont se retrouver à faire des demandes régulièrement. Donc sans cette conscience-là, évidemment, la communication non violente peut aussi reproduire justement de la domination.
Je recevais récemment Sophie Galabru qui a fait un livre sur la colère, sur les bienfaits de la colère. C'est une sorte de réhabilitation de cette émotion aussi assez mal jugée, de dire, si je suis en colère aussi, j'ai le droit d'être en colère. C'est peut-être parce que je suis dominé ou parce qu'on m'écrase ou qu'on m'écoute pas. Et parfois, lorsque je lisais des choses sur cette communication non violente, je me dis, mais tiens, est-ce qu'on écoute ces émotions-là ou est-ce qu'on veut plutôt les aplanir et dire, parce que c'est aussi un levier extraordinairement fort. On sait que la colère, ça déclenche des actions qui sont parfois, au final, bénéfiques pour la personne, pas tout le temps, mais qui peuvent être bénéfiques pour la personne.
Donc, en fait, ça, c'est aussi dans notre terrain de recherche, dans les croyances liées à la communication non violente, de personnes qui pratiquent pas, il y a la croyance, en fait, que la colère est malvenue. Et pour les personnes qui pratiquent, la colère est effectivement une alerte, en fait, pour dire que des besoins ne sont pas satisfaits. Donc, il y a vraiment, chez les personnes qui pratiquent, la possibilité d'être en colère, mais d'essayer de ne plus être en colère contre soi ou contre autrui, mais vraiment d'accueillir ce sentiment de colère comme l'insatisfaction d'un besoin. Et ensuite, de faire des demandes à soi ou à l'autre pour satisfaire les besoins. Donc, la colère, elle est présente chez les personnes que nous avons interviewées. Elle est accueillie, en fait. Elle n'est pas évincée.
C'est après, qu'est-ce qu'on fait de cette colère ? C'est ça, dans le fond.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Mais souvent, elle démontre une limite. Et Marshall Rosenberg disait, une personne qui crie est une personne qui souffre.
Et donc, il y a quelque chose, effectivement, derrière ça de très fort. Il y a aussi l'importance de l'empathie. C'est quoi ? C'est aussi se mettre... réussir à sortir de soi-même pour se mettre à côté de l'autre, presque sur la même colline, j'ai lu ça quelque part, pour essayer de comprendre ses besoins, c'est juste ?
En fait, une des premières choses que les personnes apprennent quand elles débutent leur carrière en communication non violente, c'est en fait de comment écouter l'autre. Et d'apprendre assez vite que, en fait, de donner son avis, par exemple, si vous me partagez quelque chose sur « ah ben c'était difficile ce matin » ou « je sais pas comment faire » et que je vous offre la solution, il y a un sentiment d'insatisfaction qui reste. Et ces personnes, elles expérimentent le fait d'être juste écoutées en silence ou bien juste être reformulées en sentiment besoin et de voir en fait ce que ça produit. Et c'est ça qui est nommé empathie en communication non violente.
C'est intéressant cette question de comment aider l'autre, parce que je pense que toute personne a été confrontée à cette situation où quelqu'un vient nous raconter ses malheurs, par exemple, pas forcément tourner contre nous, mais ses malheurs, puis pour aider, on essaie de donner des solutions, on donne notre avis, parce que... Et puis des fois, vous le dites, ben, ça n'aide pas, parce qu'il faudrait juste écouter. Mais c'est quoi juste écouter? C'est ouvrir les oreilles, se taire, ou être forcément d'accord avec l'autre personne?
Alors, il y a peut-être cette croyance, justement, issue, je pense, de la domination, de se dire « Ah, mais si je dis rien, c'est que je suis d'accord. » Et donc, peut-être de vouloir donner son avis. Mais il y a une posture, hein, les gens parlent, en fait, de comme on sait que d'écouter en communication non violente, et c'est une posture où le cœur est ouvert, et qui rejoint beaucoup, à l'heure actuelle, les théories sur le système nerveux, ou les connaissances sur le système nerveux, de voir que c'est des moments, en fait, où les personnes sont apaisées, et qu'il y a vraiment une ouverture du cœur qui peut se faire. Et puis c'est très corporel, hein. La CNV invite le corps dans la communication et qui permet une écoute cœur à cœur, sans même des fois avoir besoin de comprendre rationnellement, mentalement ce que la personne raconte.
Vous disiez, lorsqu'on s'appelait pour préparer cette émission, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la reproduction. Ça vient de Bourdieu, notamment la reproduction de certains fonctionnements. Et puis vous m'avez dit, mais moi j'ai envie de changer, puis de travailler sur la transformation. Ça, c'est quelque chose qui est rendu possible, en tout cas souhaitable, par cette communication non violente.
Bah oui, avec Laurence Bachmann, c'est vraiment l'enjeu, c'est de se dire, ah ben tiens, oui, ça se reproduit, on le voit, les inégalités se reproduisent, mais qu'est-ce que ça peut transformer? Et de voir justement dans ce paradigme de respect des besoins de chacun, chacune. Et moi, je trouve intéressant parce que ça ressemble aussi à l'écologie profonde, à Arnénès, qui parle de satisfaire ses besoins avec un minimum d'impact sur les autres espèces. Et ça rejoint aussi Martin Luther King qui parlait de communauté bien-aimée. Comment est-ce qu'on peut vivre tous et toutes ensemble avec le paradigme des besoins? Comment on satisfait nos besoins plutôt que nos privilèges ou nos mérites? Donc ça offre des pistes de transformation sociétale.
Les besoins, par exemple, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de besoins?
Alors les besoins, c'est la créativité, l'amour, le lien, la connexion, la spiritualité, l'autonomie, l'affirmation...
Comment est-ce qu'on fait la limite entre les besoins et les désirs?
Alors, en communication non violente, un besoin est défini comme quelque chose qui nous appartient à soi, totalement à soi, et qu'on est capable de satisfaire par différentes stratégies sans avoir besoin d'une personne particulière. Ça veut dire, par exemple, que si moi j'aimerais satisfaire un besoin de légèreté, j'ai des stratégies à disposition pour le satisfaire, et c'est un besoin. Et le désir, ce sera plutôt de l'ordre de la stratégie, qu'est-ce que je vais mettre en place pour satisfaire un besoin. Et c'est ces stratégies, dans le paradigme de la communication non-violence, qui peuvent être délétères et destructrices, mais jamais le besoin en soi.
Donc le besoin est légitime, c'est les stratégies, parce qu'effectivement, si on prend l'exemple du cadre familial, il peut y avoir la mère qui a besoin d'air parce qu'elle n'en peut plus de toute cette famille, ou le père qui dit « je veux y faire du sport », eh ben on peut comprendre, mais après, c'est comment est-ce qu'on met en place ça sans que ça lèse telle ou telle partie? Parce que c'est vite compliqué, parce que si l'autre n'est pas là le soir, ben l'autre doit se débrouiller tout seul avec les enfants, voilà. Et inversement, c'est compliqué, parce que lorsqu'on essaie de mettre en place, on comprend les besoins, mais la mise en place, c'est parfois compliqué.
En fait, il y a une croyance aussi qui est que les besoins sont en compétition et en concurrence. Et les personnes qui pratiquent sont invitées à explorer qu'en fait, les besoins ne sont jamais en concurrence. C'est les stratégies qui sont en concurrence. Par exemple, si moi j'ai envie d'aller faire du sport parce que j'ai besoin de mouvement, à quel moment je peux le faire pour pas entraver à une autre personne son besoin de repos ou de soutien ou de coopération. Donc c'est vraiment la connaissance du besoin pour la personne leur permet de développer de la créativité dans les stratégies qui vont leur permettre après de faire ensemble et de coopérer dans ces conditions de coopération.
Alors vous avez travaillé plusieurs années, je crois, sur cette question-là, dans plusieurs pays avec d'autres personnes, Anne Perrière. Est-ce que aujourd'hui, comme ça, arrivé presque au terme de cette recherche, vous arrivez à l'appliquer au quotidien? Est-ce que vous dites, tiens, ouais, c'est marrant, aujourd'hui, j'ai réussi à appliquer ce que j'ai pu observer?
Oui, finalement, hein, ça diffuse, ça inspire aussi, et c'est un outil, en fait, que autant Laurence que moi pouvons appliquer comme grille de lecture, hein, tout en sachant que c'est une grille de lecture. Mais c'est une grille de lecture, justement, qui est plutôt dans le paradigme du care, hein, le paradigme féministe du care, que la grille de lecture qui sera en termes de domination. Ah, il faut que je garde mes privilèges ou attention, je vais être je vais être dominé. Mmh.
J'ai lu à quelque part que ça permettait de passer de la victimisation à la responsabilisation. Mmh. Je pensais à certains sociologues qui liraient ça et disent « Ouh, là, attention, ça c'est quoi? C'est un truc de droite? C'est un truc... Mmh. » Est-ce qu'il n'y a pas cette critique-là aussi? Est-ce que tu es un peu « Voilà, c'est toi qui gères, tu fais toi. » Et c'est comme si on disait que le groupe n'était pas responsable d'une certaine manière.
Alors, il y a différents niveaux de responsabilité, et ça, c'est aussi un élément qui est saillant de notre recherche, c'est à quel point parler de responsabilité individuelle dérange autant les milieux activistes que les milieux politiques, et quand même de se poser la question de, et ça sera plutôt dans les milieux autonomes et anarchistes qu'on le verra, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a aucune responsabilité, si on nous a pris toute notre responsabilité? Est-ce qu'une part de responsabilité individuelle permet aussi d'avoir du pouvoir d'agir?
Oui, intéressant. Effectivement, très philosophique comme question. Merci beaucoup, en tout cas, Anne Perrière, d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle que vous enseignez à la Haute École de Travail Social du côté de Genève, la HESSO, et que vous avez mené avec votre collègue Laurence Bachmann un travail de recherche en tant que sociologue sur la communication non violente, un travail de recherche financé par le FNS. Bonne suite de journée à vous.
Merci.
Et à la technique ce matin, il y avait José Moreno. Demain, nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons de l'ivresse et pourquoi elle est si recherchée et pratiquée dans nos sociétés. Mais là, tout de suite, place au décodeur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite de journée à l'écoute de la première.
Tribu, Julien Magnolet.